Cette émission est une présentation de RZO. Pour plus de podcasts et web télé, rendez-vous sur rzoweb.com.
Cette semaine, on teste les Sony QX1, Sony A7S, Nikon 1 V3 et l'imprimante Epson Workforce WF4630. Vous écoutez Objectif numérique, épisode 68. Stéphane Vaillancourt au micro, en compagnie de François Blanchette.
L'épisode des tests. Salut, Steph.
Et Christian Jarry.
Hello, Steph.
Salut. Qu'avez-vous fait depuis le dernier épisode de Côté photo, messieurs? Christian, oui, à toi l'honneur.
Oh, c'est encore à moi, ces gens.
C'est toujours à toi le premier. Je te mets en premier dans l'ordre, dans le plan de match.
moi, en fin de semaine, il y avait quelques manifestations à Montréal et j'étais dans le coin manifester moi aussi. Alors, j'ai pris quelques photos, tant qu'à faire, de la foule, etc.
C'est bien.
C'est triste, par exemple, parce que, en tout cas, je sais pas si vous saviez, mais en fin de semaine, il faisait un petit peu froid, genre. C'était pas chaud chaud, là. Fait qu'on n'est pas resté aussi longtemps que je voulais, parce que je voulais qu'on prenne... ça s'en allait vers la place des festivals à Montréal, puis j'aurais aimé ça prendre une photo à ce moment-là où ce que j'aurais pu prendre, tu sais, une plus grande partie de la foule, mais malheureusement, avec les petits mousses, on n'a pas pu rester trop longtemps. Puis le lendemain, ben, c'était le baptême de la fille d'une de mes amies, puis elle m'a demandé d'être photographe de baptême. Fait que ça faisait longtemps non plus, j'avais pas fait ça. Les dernières fois, ben, c'était les baptêmes de mes enfants, fait que je pouvais pas particulièrement être photographe.
Non, c'est ça.
Puis c'est ça, c'est pas évident, par exemple, c'est là qu'on...
Dans une église,
hein? Ouais, c'est là que le full frame, le plein capteur, je l'aurais pas détesté, disons.
Avec la conversion d'ISO du dernier épisode.
Mais je me suis bien débrouillé avec ma 85 mm 1.8.
85 dans une église, parfait.
C'est bon. C'est parfait. Ben, c'est justement, on a un lecteur qui nous a posé la question à quoi que ça servirait une 85, voulez-vous un bon exemple? C'en est un. Parce qu'on ne veut pas être trop proche du prêtre. On ne veut pas être dans le chemin. Fait que moi, j'étais tout le tôt. Je me promenais. De même, je pouvais avoir une vue quand même assez bonne en restant assez loin avec une ouverture gigantesque. Fait que moi, j'ai fait d'assez bonnes photos. J'avais pas besoin de monter mon ISO trop non plus. J'étais à 1006. Pour ma 7D, c'est pas mal le max que je peux aller. Fait que moi, les résultats sont quand même très bien. Là, je suis bien content.
Parfait. J'étais un peu sceptique, tout simplement, parce que le dernier baptême auquel j'ai assisté, j'étais parrain et photographe. Donc, j'étais près de l'action et je pouvais pas prendre une 85 mm.
J'avoue que non.
Et non, c'est tout simplement pour ça. Donc,
c'est pas très compatible l'un et l'autre, disons.
Vas-tu nous partager une photo de manifestation?
Bien sûr.
Oui, parfait. On brouillera les visages des gens. Non,
je vous en trouverai une qu'on voit pas de gens.
De
dos. J'en ai une en plus, ça qui est le pire.
Parfait. François, toi de ton côté?
Ben moi, comme le temps entre nos deux épisodes, 67-68, c'est allé assez vite. Je me suis dit, je vais encore vous parler du Texas, l'endroit où je suis allé. J'ai fait une photo d'un lieu super cool qui est à peu près à 45 minutes de Austin.
Oui, tu as passé pas mal de temps à Austin.
Oui, parce que c'est vraiment une ville à découvrir. Là.
J'ai entendu beaucoup de bien d'Austin.
Ah, c'est une ville musicale. Toi, t'aimerais bien ça. Il y a beaucoup de shows live. Ils se sont déclarés comme la ville de show live aux États-Unis.
Okay.
La ville.
South by Southwest.
Exactement. Il y a le festival qui va à chaque année, mais il y a encore l'atmosphère très indie là-bas. D'ailleurs, le slogan, parenthèse comme ça, de la ville, ça, c'est Keep Austin Weird.
OK.
Ça, c'est le slogan.
J'aime. Ça me plaît.
J'ai le chandail.
Oui, t'as le t-shirt en plus.
Super beau à part ça.
Oui. Puis c'est pas mal l'attitude des gens là-bas. C'est très, très, très cool comme attitude. Puis bon, c'est une magnifique ville du point de vue gastronomique aussi. Ils sont très... Tu sais, ça ressemble un peu je dirais à Montréal. Tu sais, à Montréal, on a beaucoup de choix.
Ouais.
Austin, on est au Texas quand même.
Ça, j'allais dire, on se croirait pas au Texas.
C'est la ville oasis du Texas.
Ouais, c'est ça
vraiment,
que j'ai entendu.
Ouais, okay. C'est vraiment cool.
C'est l'extraterrestre du Texas.
Oui, puis c'est super agréable. D'ailleurs, une autre statistique, il y a 100 personnes à peu près par jour qui vont s'établir à Austin. Oh, ça, c'est le rythme là, du développement en ce moment là-bas.
OK.
C'est ça. Donc, pour venir au temps que j'ai passé là-bas, ben c'est ça. J'ai fait. Il y a une photo que j'aime beaucoup, c'est les trois gars. On était un petit groupe de trois, puis j'ai amené ma GoPro avec une application. J'ai pris une photo à distance, puis on se retrouve dans un endroit qui s'appelle le Hamilton Pool, qui est une grotte à ciel ouvert, si on peut dire, parce qu'il y a une partie du toit qui s'est effondrée, puis c'est rendu un beau site où on peut se baigner carrément. On n'a pas été chanceux, il y avait mouillé dans les jours précédents, puis on pouvait pas à cause...
Quoi, il pleut au Texas?
Hey, on n'a pas été chanceux. Au mois de novembre au Texas, c'est pas le meilleur mois, peut-être.
Ah, mais ça ressemble à une cénote au Mexique ou quelque chose comme ça.
Oui, hein? Sauf que c'est pas sous terre.
Ouais, ouais, ouais.
Mais oui, on pourrait faire un petit lien parce qu'il y a des stalactites aussi. Comme tu peux voir au plafond, on en voit une partie.
Ouais, ouais, ouais.
Alors voilà. Ça, c'était ça. C'est une de mes photos préférées parce qu'elle représente un endroit que j'ai adoré, puis les trois ouais, jobs ensemble.
C'est cool. Cool.
Très cool.
Oui, mais tu vois, si j'avais pas tout décidé mon voyage une semaine avant, je serais peut-être parti avec vous, mais ce n'est que partie remise.
Ben oui, on va se reprendre.
Bon, ben moi, de mon côté, j'ai triché un peu, j'ai inversé mes expériences photos récentes parce que avant d'aller en voyage, j'étais allé à Aerosim Experience, qui est un simulateur de vol de grade professionnel à Laval. Donc, je suis allé là avec l'ami Benoît Chamontin et on est allé essayer. Ben, je me souviens pas si Benoît a essayé le simulateur, mais moi, en tout cas, je l'ai essayé. J'ai piloté un Boeing 737 et wow. C'était vraiment cool. Avec un copilote, bien sûr. Mais c'est moi qui étais aux commandes.
T'as quand même la vie de plusieurs centaines de passagers là, entre tes mains.
Oui, ouais, ouais, absolument. Ouais.
Ils sont-tu morts?
Non, pas du tout. Ah, c'est j'ai bon. Manqué mon approche, donc j'ai jamais atterri.
Attends. Ils sont dans les limbes, là, en ce moment? Oui,
en ce moment.
Oui,
je les ai quittés. J'ai dit, démerdez-vous.
Ah non, ils sont pris dans un logiciel.
Mais voilà, donc...
Dans les limbes informatiques.
On les entend crier dans les traboules.
Les traboules.
Tu te rappelles pas de ça?
Oui, oui, les traboulidons.
C'est quelque chose, moi aussi, oui.
Une vieille émission québécoise, enfin. Donc, voilà, j'ai pris des photos que Benoît a ajoutées à son texte sur son site geeksandcom.com. Donc, il y a peut-être des auditeurs français qui connaissent parce qu'il y a un grand lectorat français sur ce site. Vous pouvez aller lire un peu comment ça se passe là-bas, l'expérience du simulateur. Et puis, les images sont de moi. Donc, voilà, je vais mettre le lien dans les notes d'épisode. C'était très agréable à photographier et à expérimenter. Mais,
j'imagine.
J'en doute pas.
Et d'ailleurs, j'ai gagné une demi-heure gratuite. Il y avait un tirage, il fallait laisser carte d'affaires.
Je pensais que tu allais dire que tu as abattu un avion. Là,
non, non, mais sérieusement.
Avec un Boeing, ça serait impressionnant quand même, j'avoue.
Ça se fait.
Non, mais sérieusement, même avec un simulateur, apparemment que c'est excessivement difficile de crasher l'avion. Donc,
parce qu'il va tout faire pour pas cracher.
Oui, parce que l'avion, même s'il n'est pas, je pense, en pilote automatique, il y a des mécanismes de protection ou quoi que ce soit. Donc, c'est très sécuritaire, un avion, pour qu'il arrive quelque chose... Ben, on en entend parler parce que c'est spectaculaire, mais ça n'arrive pas si souvent que ça parce que, justement, à chaque fois que ça arrive, on en entend parler, mais il y a tellement d'autres accidents dans le monde.
Ouais, puis quand... j'ai une petite parenthèse. Ceux qui sont passionnés d'aviation connaissent le site radar24.com.
Ah,
si vous ne connaissez pas ça, les gars, allez voir ça. C'est carrément une carte des cieux en temps réel avec les avions en vol.
Ah oui, oui, j'en ai entendu parler.
C'est complètement fou de voir comment il y a d'avions dans le ciel en ce moment même.
Mais savez-vous, moi j'ai été vraiment impressionné quand on a volé de Charles de Gaulle à Prague, le nombre d'avions qui passaient sous notre avion. Il y en a peut-être au-dessus aussi, là, mais la vitesse à laquelle ça passe un avion quand tu le croises de façon perpendiculaire.
Ben écoute, tu voles à 700 km/h.
Et
donc,
plus peut-être, là, puis l'autre aussi. C'est incroyable. Puis là, il y a la traînée de fumée, de condensation qui se passe. J'ai réussi à en filmer un. Écoute, ça m'a pris une seconde démarrer la vidéo sur mon téléphone. L'avion était déjà super loin, mais on le voit un petit peu, puis on voit la traînée. Là, puis... C'est vraiment impressionnant, spectaculaire. Je souhaite à tout le monde de voir ça une fois dans sa vie. Si vous prenez l'avion en Europe, observé par le hublot sous votre avion, vous allez croiser un avion, c'est presque sûr. Il y a tellement de trafic aérien. Alors voilà, c'était la petite parenthèse. On va passer aux nouvelles. Christian, t'as... Oh, une rumeur cette fois, pas une nouvelle.
Oui, une rumeur. Ben, ça... on n'en parle pas souvent des rumeurs, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas.
Oh, oui.
Cette fois-ci, c'est une rumeur. C'est drôle qu'on en mentionne parce qu'on en a parlé un peu au dernier épisode. Le Lumia 1020. Mm-hmm. Mais là, ça serait le Lumia 1030.
Oh! Comme le quartier sur la rive sud de Montréal. Non, ça...
bon, OK, on va changer de sujet tout de suite.
Ah, un bon nom de resto, ça, le Lumia.
Le Lumia au 1030. Le Lumia.
Ouais, en tout cas. Il y a quand même des images qui sont sorties sur Internet, puis la rumeur veut qu'on parlait du capteur à 40 mégapixels. Cette fois, ça serait un capteur à 50 mégapixels.
Oh, OK.
C'est toujours la même technologie. Ou ce que, bon, on prend, oui, à 50 mégapixels, mais qu'on va juste garder un certain pourcentage.
Une interpolation.
C'est ça, une interpolation. Mais, en tout cas, avoir le succès et comment le 1020 fonctionnait, disons que celui-là est intéressant. Là, ça, on a hâte de voir. Puis, autre chose aussi, ils ont changé le type de flash qui vient avec. Puis... ça sera un flash de quatrième génération LED Xenon à pulsation courte. Que ça veut dire? J'en ai aucune idée, mais semble-t-il que ça donne une meilleure performance, blablabla.
Bla, bla. Bon, okay.
Vous savez ce que c'est.
Mais de toute façon, un flash sur un téléphone, c'est mal.
Généralement. Ouais. Juste sur un téléphone?
Oh, sur un appareil photo aussi, le flash intégré.
En fait, c'est pas le flash, le mal, c'est d'où il provient. Oui. C'est sa provenance.
Ouais. Ben oui, mais
si vous arrivez à le faire rebondir sur quelque chose, c'est déjà moins
voilà,
pire.
Ouais.
Mais oui. Fait que non, c'est ça. C'est intéressant. On a hâte de voir qu'est-ce que...
Ben
que...
oui. Moi, je suis très curieux de voir ça. Et puis, j'espère que je vais pouvoir mettre la main dessus.
Sûrement. Te connaissant, tu mets la main sur tout ou à peu près, de toute façon.
Non.
Sur beaucoup, mettons, d'abord.
Oui, mais il y a des trucs qui me sont prêtés. La plupart des trucs, là, généralement. Comme là, malheureusement, j'ai les écouteurs Sony MDR A1 ou 1A, je ne sais plus. Ah, je vais me... Oui, je vais avoir le cœur brisé de m'en départir. Puis le fameux Walkman, haute résolution.
Puis, tant qu'à faire, on va faire une petite rumeur, une autre rapide, semblerait-il. Ça, j'y crois plus ou moins, là, mais on verra bien. Canon aurait deux appareils à 50 mégapixels DSLR en sortie là, d'ici 2015.
Dans les tuyaux? Ah
ouais. Dans les tuyaux, exactement.
Okay. 50.
Un qui aurait le low-pass filter, là, le...
Le filtre passe bas.
Exactement. Et l'autre 100.
OK.
Fait qu'on verra bien, mais je serais pas particulièrement surpris parce que j'ai l'impression que Nikon a un petit peu ramassé avec ça. Oui,
mais 50 mégapixels sur la même
ça
taille.
Ça fait des gros capteurs.
Oui, ça fait des gros
fichiers. Ça fait
des petits photosites.
Oui.
C'est pas.
Mais les appareils sans filtre passe bas, c'est pratique pour la photo
de nuit.
De
infrarouge.
Non. Infrarouge, je sais pas, mais de ciel, il me semble qu'on en avait déjà parlé, comme le Canon 60DA ou quelque chose comme ça. Là.
Est-ce non? DE?
Je me souviens pas, mais il y avait un 60D quelque chose qui permettait de faire de la photo d'étoiles qui était spécialisé.
On a parlé
là-dedans.
De ça.
Je pense à l'épisode 1 ou 2, là, début. Mm. De mémoire, comme ça, voyons. On se souvient de...
C'est un appareil pour astronome.
Oui, c'est ça. Mais c'est pour ça qu'il me semble que c'est le 60DA pour astronomie. Mais
ouais,
je peux me tromper.
Ouais. Non, c'est, je pense que c'est pas mal dedans.
C'est bien possible.
Voilà.
Puis, le nom... Ça, c'est parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, puis ça me fait rire un peu. La rumeur du nom serait le Canon 3D.
Ah oui, 3D, mais pas dans 3D. Le sens de...
C'est ça, en tout cas, on verra bien, bizarre.
Ouais, tu sais, des fois, il y a des gens qui ne pensent pas aux répercussions d'un nom.
Non, hein, quand même, ben, c'est peut-être pour ça qu'il n'est pas annoncé. Avec... Non, je ne penserais pas.
Aucune idée.
Mais moi, de mon bord, je vais emboîter le pas que tu as lancé, Christian. Je vais aller dans les rumeurs, moi aussi.
Oh, excellent.
Oui, oui, oui. Mais du côté de Sony, ce coup-là. Okay. Sony, devinez quoi, travaille sur un nouveau capteur.
Ah!
Je suis donc surpris, je m'y attendais pas.
Il semble que j'ai dit ça trois fois dans les derniers épisodes, au moins.
Ah, il y en avait un que c'était Canon, je crois, mais oui, tu as parlé de Sony avec un capteur incurvé.
Je vous fais une parenthèse ultra rapide, 60DDA.
OK.
Ah, OK, ben voilà, tu avais le A.
Ouais, j'étais pas loin.
Excellent. Ben, j'adore Sony. Vraiment, là, ils sont ils sont toujours un peu...
Ils sont agressifs,
puis ils tentent des choses.
Oui.
Ils restent pas là à juste dire, OK, on va implanter quelque chose. Non, on va essayer des choses.
Absolument.
Ça, des fois, ça marche pas. Oui, mais quand ça fonctionne, c'est vraiment cool. Fait que là, on parle d'une nouvelle technologie qui s'appelle le Active Pixel Color Sampling, qui permet...
Donc, l'échantillonnage actif de pixels de couleur.
On peut le traduire littéralement.
C'est un traducteur maison simultané.
Ouais. Ce que ça permet, cette technologie-là, ou permettrait, parce que là, on est dans la rumeur, évidemment, c'est de traiter l'information RGB individuellement dans chaque pixel.
Oh.
Ça, là, ce que ça veut dire, c'est que ça va éliminer plusieurs étapes au niveau du filtrage de couleur. Tu sais, il y a des filtres puis des méthodes de traiter la couleur dans chaque appareil capteur maintenant parce que il faut séparer les couleurs et tout ça. Là, on parle d'un pixel qui attrape les trois couleurs carrément.
Hmm.
Autrement dit, un pixel sur trois comparé à un capteur normal va servir. On utilise moins de pixels pour la même surface.
OK.
Okay. Qu'est-ce qu'on peut faire à ce moment-là? Ben, on pourrait grossir les photosites.
Mm-hmm.
Si un pixel fait le travail de trois sur une même grosseur physique,
oui.
Ben, pourquoi pas grossir les photosites?
Absolument.
Ce que ça va faire, théoriquement, ben, plus de gains à basse lumière, puis une plus grande plage dynamique aussi.
Absolument.
Bon, mais si on applique ça, en théorie, évidemment, encore, c'est pas des petits chiffres là, qui sortent de cette technologie-là, ça fonctionne, là. Elle existe peut-être. Des rumeurs, des fois, c'est il y a un bon fondement.
C'est basé sur quelque
chose.
Il y a souvent une grosse partie de vérité de travail. Ça ne veut pas dire que ça va aboutir vers quelque chose, mais...
Ben, en chiffres, ça donne 21 stops de lumière et 16 000 images à la seconde qui serait possible de faire avec un capteur de cette technologie-là. Ça, on parle de ultra... ralenti.
Je comprends.
Il y a quelques caméras dans le mode très professionnel qui le font, la caméra Phantom, qui est une caméra de cinéma.
À 16 000?
Elle fait du 12 000, je pense.
Okay.
Mais écoute, elle coûte une beurrée, cette caméra-là. Là, on parle d'un capteur qui pourrait aller jusqu'à 16 000 images à la seconde. Il y a des questions qu'on peut se poser, par exemple, avec autant d'informations qui passent par ce capteur-là, est-ce que la chaleur va pas devenir un problème parce qu'il faut refroidir. Mmh. Écoute, ça devient comme un processeur, là, carrément.
Oui. Ben, pas juste ça, je veux dire, ton information, il faut que tu la stores quelque part
aussi. Exactement, c'est beaucoup de data rapidement,
ouais.
Surtout le 16 000 images secondes.
Ça prend une bonne mémoire tampon.
Oui, quand même.
Comme c'est une rumeur qui court...
Les pétabytes seront pas trop vite arrivés. Hein?
Ouais. Non.
Mais même si ça faisait un dixième de ça, 1600 images secondes, c'est impressionnant quand même.
Oui, mais ça, on va y arriver assez vite. Parce qu'on est dans le... Écoute, la GoPro, qui est une toute petite caméra minuscule.
Oui, mais t'as quoi, 120?
120 en full HD.
Oui.
Bon, mais c'est...
Oui, mais là, on parle de plusieurs mégapixels, puis c'est 1600 images.
Oui, mais ça s'en vient, là. Ça s'en vient rapidement.
Mais sans vouloir être plate, à 1600 images, c'est quoi? Ton vidéo de 10 secondes va prendre 10 minutes à écouter?
Mais c'est des petites séquences que tu gardes. Pas le 10 minutes.
Non,
là.
Je le sais. Non, c'est technologiquement impressionnant,
Oui. Mais si, en tout cas, pour suivre le sujet, allez sur le site SonyAlphaRumors.com.
Ah, ça, c'est un de mes sites préférés depuis un an ou deux.
Je comprends pas.
Allez voir ça parce que c'est de jour en jour, il y a de l'information. Je pense qu'il y a même un plan de la nouvelle technologie sur papier qui a été leaké, qui a fuité, si on peut dire.
Mm-hmm. Oh, ça se dit.
Ouais.
Fuité. Moi,
il s'est pas enfui. Il a fuité.
Ça dépend.
Il a
peut-être qu'il s'est enfui des laboratoires.
Oui.
Non, OK.
Enfin.
Sur cette question sémantique, vous
nous corrigerez.
Une autre nouvelle rapide. Christian, au dernier épisode, m'avait parlé d'un objectif de 4K qui couvrait jusqu'à 1000 mm.
Alors, laisse-moi deviner, tu le relances.
Oui.
C'est clair.
Je le relance en 8K.
Oh!
Ce coup-là. Mais bon, c'est pas tout à fait la même chose. Mais c'est Canon puis NHK. Est-ce que vous connaissez NHK? C'est le diffuseur japonais.
Ouais, okay.
C'est l'équivalent du plus grand diffuseur dans chaque pays. Disons. Donc NHK, ça serait, je pense, le plus grand diffuseur au Japon. En tout cas, on entend toujours parler de eux très souvent. Ils testent en ce moment un objectif qui est capable de reproduire des images 8K parce qu'ils travaillent sur le 8K au Japon depuis quelques mois déjà. Ils ont déjà même,
On a tous nos télévisions 4K à la maison, alors pourquoi pas y aller pour le 4K?
Juste pour vous donner une idée, là, en pixels, le 8K, ça donne combien? Ça donne 7630 par 4320 pixels.
Fait qu'on est à peu près dans le 30 mégapixels.
Ah, j'ai pas fait le calcul mental.
7 x 4, 28 et des poussières, donc 30 mégapixels.
On parle de quand même une grosse image.
Tu vois, la résolution du A7, c'est 6000 par 4000. Donc, à 24 mégapixels. Donc là, t'es à 7000 par 4000 quelques. C'est encore plus haut. C'est fou, là. C'est que tu peux regarder, si t'as un téléviseur comme ça, tu peux regarder tes photos en résolution native à même l'écran. Tu vois chaque pixel de ta photo, c'est fou.
C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de détails.
Ouais.
Et d'argent.
Et long à charger.
Mais bon, si vous êtes intéressé, je ne mettrai pas mon argent de côté tout de suite là-dessus parce que ça ne sera pas disponible au grand public, cet objectif-là. Ah, c'est vraiment pour des tests. Déception.
Rangez vos carnets de chèques, messieurs et dames. Déception. Bon. Mais moi, je ne suis pas dans les rumeurs du tout. Je suis en fait dans une vieille nouvelle. Une nouvelle qui date d'à peu près 2 mois, mais que je trouvais bon de souligner. Je recycle du vieux stock.
C'est bon. Je suis pour le recyclage.
Oui, c'est écolo. Donc, non, mais c'est pour ceux qui ne savaient pas, Adobe ont racheté un service de retouche photo qui s'appelle Aviary, donc, ou Aviary. Et donc, ils vont. Apparemment que ça va être prochainement intégré aux suites maison d'Adobe. La société Aviary, c'est un éditeur spécialisé dans la modification et la mise en avant de photos. Donc, il y a un kit de développement là, qui permet d'ajouter cette brique-là là, à même leurs applications. Et voilà, c'est quand même un achat qui méritait la peine d'être souligné parce que par la même occasion, Adobe a racheté... Ça lui donne une société qui a lié beaucoup de partenariats avec des banques d'images ou des services qui permettent d'éditer les photos et tout ça. Donc, parmi les services compatibles avec Aviary, on a Flickr, qui est fait par Yahoo. On a MailChimp et un autre que je connais plus ou moins, Walgreens. Mais...
ouais.
Ça, c'est quand même assez gros. Donc, voilà. C'est quelque chose qui va probablement s'ajouter à la suite Creative Cloud ou qui va permettre à Adobe d'ajouter des trucs, des
d'aller
fonctionnalités.
D'aller chercher la technologie. Ouais, exactement. Ouais, comme, disons, Facebook qui achète une petite compagnie de software pour rajouter ça.
Exact.
Ouais. Pour s'approprier les droits.
En plus des partenariats. De...
Non, pas Snapchat. ChatApp? Non, AppChat.
Snapchat, Instagram,
Snapchat. Non. Qu'est-ce qu'ils ont acheté, Facebook? C'est le messager app quelque chose. Oh.
WhatsApp.
C'est ça, WhatsApp.
T'as raison, c'est pas Snapchat. Ouais, Snapchat a refusé de se faire acheter, mais WhatsApp a accepté. Ouais.
Ah voilà, c'était ma petite vieille nouvelle. On va passer au test. On a plusieurs tests pour vous. Christian, à toi l'honneur, toi qui es toujours en premier dans l'ordre des choses, t'as eu la chance, je considère que c'est la chance d'avoir testé le QX1, mais qu'est-ce que c'est le QX1 de
la
Sony?
La chance. Particulier que tu dis ça comme ça. Je sais pas si je... Non. En tout cas, on va...
Alors voilà, livre-nous les résultats de ton test.
Le QX1, ce que c'est... on pourrait dire que c'est un appareil photo / objectif que vous connectez sur votre téléphone.
Mm-hmm. On avait déjà parlé du QX10 ou du QX100. Il y a... Pas loin d'un an.
Moi, c'est ça. Il y a à peu près un an.
Ouais.
C'est un appareil photo où ce qu'on peut changer l'objectif, comme je disais, qui se connecte sur votre téléphone. C'est quand même un capteur APS-C. Fait que de ce côté-là, intéressant, définitivement. Il est compatible iPhone et Android. J'ai essayé les deux. Fonctionne très bien et sur l'un et sur l'autre. Par contre, je dois donner... malheureusement, un petit avantage à Android, particulièrement si vous avez une puce NFC, parce que c'est beaucoup plus facile de le connecter dans ce cas-là.
Ben, Sony, comme je disais, peut-être il y a quelques épisodes, a vraiment adopté la technologie NFC.
Ouais.
Tous leurs appareils, ou presque, en tout cas les plus récents, les téléviseurs, n'importe quoi, là, les systèmes audio, tout a le NFC intégré. Donc, on peut jumeler deux appareils tout simplement en les cognant ensemble. Puis
c'est vraiment c'est génial. Moi, pour le travail, j'ai un Xperia Z. Là, c'est même pas le plus récent, c'est le premier qu'ils ont fait. Puis je l'ai utilisé avec ça, puis ça fonctionne très, très bien. Puis ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est ce gadget. Parce que je sais pas comment définir ça. C'est un peu
c'est
étrange.
Spécial, c'est ça, hein?
Je sais pas trop.
C'est l'équivalent d'un boîtier d'appareil photo, mais en forme d'objectif.
Ouais,
si on
c'est
veut,
ça. C'est...
Sur lequel on peut brancher un véritable objectif.
Puis on peut même monter notre téléphone dessus.
C'est ça. Il y a comme une pince.
Il y a comme une pince. Puis ce qui est quand même bien fait, c'est que mon iPhone 5S est plus petit. Fait que ça fonctionne très bien, mais mon Xperia Z est plus large. Aucun problème. Les deux, j'ai été capable d'ajuster la pince. Ça fonctionnait très bien. Mm. On peut mettre une carte de mémoire micro SD dedans, ouais, si on préfère, ou on utilise le téléphone.
C'est un appareil autonome, techniquement, mais ça fait un peu comme une GoPro. Tu ne vois pas vraiment ce que tu photographies, sauf si tu le jumelles avec ton appareil.
Exact.
C'est ça.
Puis, l'autre chose que ça a l'air étrange, là, mais c'est comment tu le tiens. C'est bizarre à tenir un petit peu. Quand il est accroché sur le téléphone, ça va pas mal, mais le tenir tout seul, j'ai trouvé ça bizarre
un petit peu. Hein? Parce que c'est une forme arrondie, c'est pas comme un appareil photo ou un téléphone.
C'est comme pas ergonomique vraiment. La seule chose que j'ai apprécié, c'est j'avais un party d'Halloween, puis je voulais me prendre une photo de moi-même, parce que jamais personne ne prend des bonnes photos de moi. Fait que j'ai mis sur un petit trépied. Puis je l'ai mis dessus, puis avec le téléphone, ben j'étais à distance, puis je pouvais voir, puis j'ai pu faire mes ajustements, mes affaires, puis prendre ma photo moi-même. Fait que ça, j'ai trouvé ça le fun. Ça, c'était pas si mal. Là où ça commence à me déplaire un peu plus, c'est que, de un, souvent, mettons, comme on parlait des micro-cathares, tout ça, puis une des choses qui m'agace le plus, c'est quand il y a un énorme délai, quand on se promène notre écran, et le délai, il est atroce.
Oui, parce qu'en fait, là, tu es connecté en Wi-Fi
et
ou en
voilà.
Bluetooth.
Et voilà. C'est pas super, vraiment. Si on est dehors, tu sais, beaucoup de luminosité, c'est moins pire, mais dès que ça tombe, la luminosité, c'est vraiment là, puis c'en est désagréable, je trouve, vraiment énormément. Puis, l'affaire, je pense, qui est une coche encore plus loin, puis ça, c'est un mortal sin, là, un
péché mortel.
Presque un péché mortel, c'est que quand on appuie puis on veut prendre une photo, c'est long.
Ah oui? OK.
Comptez une bonne seconde avant que l'appareil se déclenche correctement de l'autre côté.
OK.
C'est long. Quand on est habitué, puis on se dit, tu sais, c'est un capteur APS, c'est ça. Non, la seconde, là, elle est longue.
Fait que pour faire de la F1, c'est un appareil parfait, là. Je comprends bien. Là.
Oui,
mais
tout
là,
à fait.
On s'entend que ça s'adresse pas du tout.
Non. Mais tu sais, je veux dire, si c'est juste prendre une photo à l'extérieur dans des conditions correctes, c'est pas pire, mais c'est pas... je suis comme pas convaincu, parce que oui, attaché sur ton téléphone, c'est pas si mal. Stéphane m'a gentiment prêté un de ses objectifs, c'était 50 000 mètres, si ma mémoire est bonne. C'était lourd un peu, c'était encombrant, c'était gros, puis imaginez, vous avez votre téléphone collé dans le fond sur ce bidule-là, puis vous avez l'objectif en avant. Fait que le poids, il est tout en avant. Mais là, comment vous le tenez? Vous le tenez en dessous de l'objectif? Vous essayez de prendre avec le téléphone? C'est pas super ergonomique. C'est pas génial. Fait que j'ai essayé deux méthodes. C'était où je le tenais dans ma main, puis j'avais le téléphone dans l'autre main, puis j'essayais de prendre des photos. Mais ça non plus, c'était pas super ergonomique.
Parce que là,
ergonomique.
Tu dois te servir de tes deux mains séparément.
Ouais, hein, c'est ça. C'était comme pas... Puis là, ben c'est niaiseux parce que tu veux prendre ta photo. Fait que là, tu prends ton téléphone dans ta main droite, si t'es droitier. Mais tu prends le gadget dans main gauche, mais ta main gauche est moins habile. Fait que là, tu bouges, tu te déplaces. C'est comme, je sais pas,
mais
pas vendu.
Il y a un déclencheur sur la base, sur le QX.
Oui.
OK. Parce que t'es pas obligé d'appuyer sur le téléphone même. Là.
Non, j'avoue que je l'ai pas vraiment utilisé. J'ai plus utilisé que le téléphone parce que je me disais, tu sais, en même temps, si je vois pas ce que je fais, le déclencheur sert à pas grand-chose. Fait que c'est à ça que ça sert. T'sais. Puis, je sais pas, je suis resté perplexe. L'autre objectif qui était prêté avec l'appareil, lui avait aussi... Ça, c'était bien, par exemple, le zoom motorisé. Puis lui, ce qui est intéressant, c'est qu'avec l'application, on peut faire le zoom, on peut dézoomer. T'sais, on n'a pas besoin de le faire. Fait que c'est sûr que de ce côté-là, j'ai trouvé ça un petit peu plus naturel avec la main, par exemple. Fait qu'en tout cas, bref, tout ça pour dire que dans les points positifs, bon, on a quand même un capteur APS-C.
Oui.
La qualité visuelle est bonne. J'ai rien à me plaindre. Les photos sont belles, sont claires. Il y a un bon niveau de détail,
etc. Le capteur,
etc.
À la base, je pense qu'il est quoi, 20 mégapixels, ouais. Quelque chose comme ça.
L'ISO est correct. C'est rien d'exceptionnel, mais encore une fois, c'est très compétent. Là, c'est même probablement une coche au-dessus de mon ma 7D, mais tu sais, c'est la technologie à l'autre à 5-6 ans. Fait que c'est quand même bien. J'ai trouvé quand même que c'était facile à monter sur le téléphone, comme je disais, assez versatile, parce que même si votre téléphone est plus large, ça fonctionne quand même assez bien. NFC, là, ça, c'est tout à fait génial. Là, j'espère que Apple va se réveiller puis ouvrir ça plus que le maudit Apple Pay, là, donc c'est ridicule. Dans les points négatifs, ben long à déclencher. Moi, j'ai vraiment ce côté-là. Là, surtout quand on s'imagine APS-C, ça veut dire que DSLR, donc ça, quelque chose qui est vite, qui est rapide. Ouais. C'est pas... le délai dans l'image, puis c'est encombrant.
Oui. C'est qu'on a pas... l'équivalent presque d'un hybride ou d'un petit réflexe collé à un téléphone. Ouais. Donc, notre cerveau se dit, ben là, je suis en train de photographier avec un téléphone qui a, oui, un objectif, mais ça devrait pas être aussi gros.
C'est ça, c'est donc... exactement ça. C'est comme, on dirait qu'il y a une déconnexion par rapport à ça. Fait que c'est un produit que je sais comme pas trop quoi penser de ça. C'est pas mauvais, ça fait ce que ça demande assez bien, à part pour le déclencheur, mais disons qu'on t'es capable de vivre avec, là. C'est pas la fin du monde, là. J'ai quand même pris beaucoup de photos avec. Mais je sais pas à quoi ça sert.
Ouais.
Parce que je me vois pas traîner ça non plus qu'un appareil photo.
Non, mais il y a certaines situations, certains usages qui peuvent être faits. Probablement, justement, quelqu'un qui veut pouvoir le déclencher sans avoir l'appareil entre les mains, quitte à avoir un délai, mais parce qu'il va pouvoir positionner l'appareil à un endroit où il ne pourrait pas aller ou accéder lui-même.
Mais tu vois, c'est justement, ça revient à une autre affaire que j'allais dire, c'est que me semble que je vois mal traîner cet appareil-là sans traîner un trépied, sans nécessairement un trépied.
Peut-être un gorillapod.
Exactement, un gorillapod serait parfait pour ça.
Ouais.
Mais encore là, ça fait une chose de plus à... je sais pas, je suis comme... Je suis pas convaincu.
Moi, je vois ça comme un outil d'avoir un objectif qui se sépare parce que ça peut justement servir de petit appareil que tu mets à part un peu plus loin, comme la photo que tu as prise de toi-même. Tu sais.
Mais
moi,
je trouve de plus en plus. Mais il y a de plus en plus.
Oui, je trouve que ça devient un outil. C'est une autre façon.
Il y a de plus en plus d'appareils photo qui te permettent de le faire aussi. Fait que c'est quoi la plus-value? Je sais pas.
Ben, c'est quand même pas gros pour. Tu sais, comparer un appareil qui est full Wi-Fi puis que tu contrôles avec ton téléphone, c'est quand même moins gros.
Mais ça dépend de l'objectif, ça dépend des affaires. C'est mais ça, à la base, c'est...
Mais ça te permet justement de choisir l'objectif que tu veux brancher. Donc, tu te dis, ben, moi, je veux faire de la photo justement avec un objectif plus flexible comme le 16-50 motorisé ou je veux prendre une 50 mm puis faire de la belle photo... Et tout de suite avoir ça sur mon téléphone pour le partager, parce que tu as l'instantanéité, parce qu'il y a encore des appareils qui n'ont pas le Wi-Fi intégré. Des trucs c'est du genre. Correct. Des trucs du genre, je sais pas.
Ouais, je sais pas. Mais garde, il y a un intérêt, il y a sûrement un marché si, parce que c'est pas le premier modèle. Fait que ça veut dire qu'il y a quand même un intérêt, il y a un marché pour ça.
Puis veut pas. Sony innove, mais explore beaucoup aussi. Donc ça...
Là-dessus, je les félicite énormément parce que c'est, comme tu dis, quelque chose de nouveau.
Ouais, mais c'est ça. Ce que je veux dire, c'est que peut-être qu'ils ne s'attendent pas à avoir un succès avec cet appareil-là nécessairement, mais ils explorent des avenues puis ils vont arriver avec quelque chose éventuellement. Donc, oui, si vous, dans votre tête, ça fait « Ah oui, ça serait génial pour utiliser dans telle situation ou dans tel endroit », parfait, donc ils ont rempli leur mission, mais ça se peut que dans la forme actuelle, ça ne corresponde pas nécessairement encore aux besoins d'un certain nombre de personnes, puis la prochaine itération va mieux correspondre, je ne sais pas. Donc peut-être qu'ils vont pouvoir miniaturiser un peu plus.
Là que ça serait gagnant. S'ils arrivaient à miniaturiser un petit peu plus, c'est sûr que ça serait très, très gagnant. Mais bon, regardez, c'est quand même un bon appareil pareil.
Bon, ben parfait. Et on parle de combien à peu près?
Là, tu viens de me poigner. Je ne sais pas.
Victory!
Bravo, bravo. Le pire, c'est que je n'ai même pas pensé à checker. QX1. C'est environ 450-500.
OK.
Bon. Donc, c'est pas si mal, là.
C'est pas si mal, parce qu'on considère que c'est, dans le fond, l'équivalent d'un appareil photo avec capteur APS-C, mais qu'on a besoin d'un objectif en plus, donc c'est ça.
Ça, le problème, c'est qu'à 400-450, il n'y a pas d'objectif.
C'est ça.
Fait que...
À considérer.
Ouais.
Parfait. On reste toujours dans les tests Sony. François, de ton côté, tu as testé l'A7S, le petit frère du A7 et de l'A7R.
Oui, la petite bombe.
Ah oui.
C'est un... Mais je vais vous dire juste les petites spécifications de base de cet appareil. Ouais. On en avait parlé hein, avant que ça sorte dans nos nouvelles, certainement dans le passé. C'est une caméra qui devient quand même super intéressante pour certains secteurs. C'est une 12 mégapixels. Ça, on vous l'avait dit pourquoi? Parce que les photosites étaient plus gros sur cet appareil-là. Il avait décidé d'y aller du côté lumière, ce qui n'est pas une mauvaise décision.
Oui, oui. Moi, ce serait plus... Moi, entre la tienne et celle-là, moi, je...
Oui, puis il y a le mode silencieux aussi, je pense.
Oui, c'est ça. J'y viens. Il y a l'écran qui est à 920 000 pixels, qui est un standard, mais qui est ajustable, qu'on peut déplier. Le viseur, par contre, c'est un OLED à 2,3 mégapixels. Ouais,
ça, c'est excellent.
Ça, c'est vraiment... Là,
toute la série A7 a ce viseur-là.
Très haute résolution, oui. Il fait de la vidéo 4K. ISO entre 50 et 409 600.
Ça, là...
Bon.
Il y a un seul autre appareil.
Je vais revenir, à ça.
Oui, mais il y a un seul autre appareil. Je pense que c'est un Nikon qui fait ça en ce moment. Donc, à 409 600,
oui, c'est ça. C'est,
on s'entend tous, je pense que c'est clair que c'est un peu théorique, la 409 600.
Non, c'est très, très, très clair que c'est pas théorique, c'est là. C'est juste
non,
trop
dans
là.
Le sens, excuse-moi, non, ce que je veux dire, c'est que oui, mais je serais curieux de voir les photos à 409 600.
Ça correspond à ISO 6400 sur ton...
Oui, sur la 7D.
Ouais, je serais pas vraiment surpris pour être franc.
25 points d'autofocus, déclencheur entre 30 secondes et 1/8 millième. Il fait 5 images à la seconde.
C'est bien.
Il coûte 2 500 $ pour le boîtier. Bon, moi, cet appareil-là, quand je l'ai eu entre les mains, je me suis dit, OK, je n'irai pas trop faire des tests de photos. Moi, ce que je veux faire, c'est que je veux représenter le gars qui part du DSLR avec le boîtier traditionnel de Canon ou Nikon. Puis je vais me dire, OK, là, j'embarque avec cet appareil-là. Puis je veux vivre c'est quoi, puis vous le transmettre. Comment que ça s'est passé?
Ouais, parfait. C'est bon.
C'est une expérience.
Oui, finalement. Oui, oui. L'habitude d'un boîtier Canon ou Nikon, là, c'est, dans mon cas, là, c'est vraiment bien implanté. Parce que quand je suis arrivé dessus, là, j'ai eu de la misère à trouver mes repères sur bien des fonctions. Là. Même les fonctions de base. Là. Je vous jure, là, il a fallu... J'ai passé mon appareil à un collègue au travail. J'ai dit, écoute, trouve donc l'ouverture. Là. Je trouvais pas la petite molette. Elle était en avant. Tu sais, je veux dire, j'étais toujours habitué d'avoir tous les pitons en arrière, moi, proche de moi. Mais là, il y avait une molette à l'avant de l'appareil. Naturellement, je n'ai pas été la chercher. Évidemment, quand j'ai vu qu'il était là, je suis là, ah, OK, c'est pratique parce que dans ta prise en main, tu sais,
tu
as les doigts en avant,
molettes.
C'est ça. Ouais. Ouais. Fait que ça, bon. Fait que ça a quand même été mon premier moment. J'ai fait comme, ah, j'ai cherché. T'sais. Bon, les boutons sont assignables aussi par les menus. Là. On peut changer les fonctions des boutons, tout ça. Bon. Fait que ça prend une certaine pratique aussi pour arriver à trouver une bonne combinaison de boutons qui vont faire notre affaire.
J'ai changé souvent l'ordre aussi des miens.
Là. Bon, fait que ça, j'imagine que ça aussi, une fois que c'est fait, là, on tombe avec... On devient un petit peu plus performant à ce moment-là. N'empêche que de la tenir entre les mains, je trouve ça encore bizarre, un petit boîtier comme ça. Moi, j'appelle ça un petit boîtier.
Oui. Ouais,
elle est pas grosse.
J'adore... C'est le fun qu'elle soit petite, tu sais. C'est beaucoup plus léger, plus transportable. Mais je déteste le fait qu'elle soit petite pour la même raison que je viens de dire. Parce que c'est
moins
ma main
massif,
est trop grosse.
T'as pas une aussi bonne poignée que généralement que des grosses DSLR.
Non, exactement. Parce que ça se veut une caméra professionnelle, là. T'sais, fait que bon, je suis maudit, peut-être que t'as un petit ajout, quelque chose pour que ça devienne un peu plus grosse. Quand tu travailles, c'est pas tellement important qu'elle soit petite. T'sais.
Non.
Ouais.
Bon, ça c'est un point de vue. Prendre une photo avec cet appareil-là. Si on la connaît pas bien, ça prend un certain temps de s'ajuster. Je me suis retrouvé à me mettre en mode automatique rapidement.
Ah oui?
Ouais, parce que j'étais là, je suis pas capable de la placer. Fuck, je m'en vais en automatique, je prends ma photo.
Puis est-ce que ça donnait quand même des bons résultats en automatique? Oui,
ça donne quand même des bons résultats. Mais si tu veux te placer dans un certain mode parce que tu es à contre-jour, parce qu'il te manque un peu de lumière dans un coin, tout ça, ben c'est la période d'adaptation que ça me frustrait. J'étais là, ah, ça me tente pas de réapprendre un autre appareil encore une fois, parce que ça fait longtemps que je travaille avec les DSLR, les gros bodés. Je sais qu'ils s'en vont tranquillement, là, ces caméras-là. C'est, on va, ils disparaissent, mais je suis pas encore prêt. Là, t'sais, c'est, clairement, là, à l'essayer, j'étais pas encore prêt à laisser aller ça. Là, t'sais.
Moi non plus.
C'est l'avantage, par exemple, c'est qu'un gars comme Stéphane, qui a déjà une A7, il va embarquer là-dessus. Écoute, il sait comme mettre ses pantoufles. Là.
Ouais.
Il va arriver, puis ça va être une question de secondes de, juste de regarder le menu puis de dire, cette petite fonction-là est rendue à un autre menu, mais pour arriver au menu, ça va être la même façon que tu faisais avant. Mm. Fait que ça va être super bien. Si tu upgrades pour une A7S, ben ça va être super facile. T'sais. C'est en plus ils sont cousins de design, fait que c'est,
ouais, c'est
carrément
ça. C'est
là,
à peu près le même boîtier, je pense.
Ouais, c'est ça. J'ai beaucoup aimé l'écran ajustable. C'est rien de nouveau là, mais sa construction est super mince, l'écran là-dessus.
Mm.
Puis, mais t'as aucunement l'impression qu'il est fragile quand je le manipulais. Là. C'est fait solide, quelque chose de rare.
Ouais, c'est en métal. Là, c'est...
Ouais. Ouais. Fait que ça, j'ai bien aimé ça. L'objectif qui venait avec un 16-35 f4, c'est de...
En fait, il venait pas avec. Tu l'avais en test, puis je t'avais dit, même je pense que tu étais dans les premiers.
Ah oui. Ben, parlons-en. c'est d'une super bonne qualité, comme Sony fait affaire avec Carl Zeiss depuis la nuit des temps. Je pense que depuis que moi j'ai découvert un appareil Sony, il y a toujours eu une alliance avec Carl Zeiss pour faire les objectifs qui sont très, très, très bons. Qui est stabilisé, tropicalisé, les poussières, éclaboussures d'eau. Ça, c'est devenu un standard dans cette catégorie d'objectifs-là. À 16 mm, par contre, j'ai trouvé qu'elle déformait pas mal trop. Tu te rappelles quand tu me l'as donné pour dire, tiens, teste ça. La première chose que j'ai fait comme,
ça déforme.
Ça déforme en tabarnouche. Ouais. C'est quand on fait du paysage, c'est moins pire, mais aussitôt qu'on intègre un humain ou quelque chose qu'on connaît les proportions
vers les côtés,
par cœur,
ouais.
Ou qu'on fait des mouvements gauche-droite en vidéo, évidemment, c'est terrible. Là. C'est... Pour moi, ça passe pas.
Ouais.
Donc, ce que je fais, c'est que je zoome un peu pour éliminer les coins que je trouve un peu trop déformés. En post-production, on peut ramener ça, mais il y a des proportions que tu peux pas ramener. Je veux dire, l'objectif le prend d'une certaine façon. Tu peux pas tout ramener. Ça va déformer autre chose dans l'image. Il y a une limite. T'sais.
Mais c'est pour ça aussi que je tenais à préciser que l'objectif 16-35, c'est vraiment un objectif qui vient de sortir, qui n'est pas... l'objectif qui vient avec un A7S ou peu importe, parce que c'est ça, tu l'as dit, de toute façon, au départ, l'A7S est 2 500 $ juste pour le boîtier, donc on peut choisir peut-être le 24-70 que j'ai,
absolument.
Ou tu sais, un autre. Donc, c'était juste pour faire cette distinction-là.
Oui. Si jamais le 16-35 vous intéresse, F4, tenez ça en compte. Il déforme beaucoup trop, selon moi, à 16 mm. Bon, 16 mm, c'est quand même...
C'est
sur
large.
Sur un plein capteur, c'est large. Là.
Ouais.
Curieusement, à 16 mm aussi, faites le test si vous avez l'objectif dans les mains. En tout cas, moi, je l'ai fait pour vous. Tu prends une photo d'un mur blanc, il y a beaucoup de pertes de lumière dans les coins.
Ah oui?
Ouais. Au même endroit que ça déforme.
Du vignettage nécessairement, c'est juste de la perte de lumière.
Oui, à cause de l'angle du verre, puis de la construction, peut-être à l'intérieur des lentilles aussi. Je pourrais pas dire exactement pourquoi c'est comme ça, mais c'est assez évident sur un mur blanc quand on fait le test.
Juste à 16?
Surtout à 16.
16, 17, 18.
Oui, c'est sûr que si on s'approche, c'est ça. On le perd si on s'approche, on se rapproche du 35 mm, évidemment. C'est quand même 1350 $ cet objectif-là. Fait que c'est pas un point super, je dirais, pour le prix.
Ouais,
c'est pas
le
vendeur.
Fait qu'à 16 mm, ça donne un effet Instagram gratuit, mais si tu le veux pas, il faut que tu ailles en post-prod pour le corriger. Puis si c'est vraiment basse lumière, ben tu vas ramasser du bruit. Là,
parce que je pensais à Eric Santage, justement, qui a un objectif très grand angle, mais il est en APS-C.
Ouais.
Donc, c'est l'équivalent ou à peu près de son 10-18. Ben, peut-être un peu plus que 18, là, mais c'est l'équivalent 16 mm. Si vous avez un capteur APS-C, c'est 10 mm qui va vous donner cet effet-là. Donc, c'est excessivement large comme objectif.
Le mode silencieux.
Oui.
Il porte vraiment son nom.
Ça t'a dérouté au début. Hein,
ça fait.
J'aime pas ça. Moi aussi, j'ai pris quelques photos, là, je trouve ça bizarre.
Ça fait aucun bruit. Puis tellement aucun bruit que oui, j'étais dérouté parce que je me demandais si j'avais pris une photo.
Oui.
Je me demandais vraiment, est-ce que la photo a été enregistrée? Fait que là, j'allais vérifier. Puis là, OK, j'allais pris la photo. Fait que ça, c'est une petite adaptation à faire, j'imagine, ouais. Mais c'est autant que c'est bon parce que tu passes totalement inaperçu.
Ben oui. Que... Moi, j'aurais aimé que mon A7 ait ce mode-là pour la photo de rue à Prague ou à Berlin parce que tu prends une photo, puis là, tu as souvent une personne ou deux qui se retournent. Est-ce qu'il m'a photographié ou qu'est-ce qu'il photographie? Donc,
ouais.
Pour cet aspect-là, c'est intéressant parce que tu te places, tu peux juste faire semblant de viser, tu prends tes photos, puis les gens ne savent pas, puis là, tu continues à faire semblant de chercher.
Le truc de Zacharias.
Mais oui, le truc de Zacharias.
Oh, oui, qui est un excellent truc. Ouais. Au moment de l'enregistrement de l'épisode, ben, la A7S est au sommet des caméras pour sa sensibilité. Ouais. C'est vraiment dans le top 1, 2 peut-être. Tu me parlais de Nikon.
Il y a aussi un modèle, mais je pense que l'A7S est légèrement, mais on parle de c'est minime, là, légèrement supérieur, selon des tests qui ont été faits sur un autre site. Là. C'est pas un avis personnel. Là.
Bon, mais tu sais, ça va changer rapidement. Là, ça...
Oui, ben, c'est... de toute façon, rendu là, c'est pas une différence... C'est pas le jour et la nuit.
Non. Non. Bien dit. Bon. Le maximum ISO qu'on va monter sur cet appareil-là, en poussant un petit peu, c'est 102 400. Après ça, ça devient assez... On peut travailler en post-production, mais il y a des limites. Là. Oh, le 409 000, oubliez ça.
C'est quand même 102 400.
C'est quand même 102 400. C'est pour ça que c'est...
51 200 pour être... Tu sais, sur le côté sécuritaire. Ah ouais.
C'est quand même un appareil incroyable. C'est pas pour rien qu'en ce moment, on entend beaucoup parler de cet appareil-là. La batterie reste toujours un problème.
Oui, malheureusement. Comme l'A7. Et j'en ai parlé au type de Sony quand je l'ai vu vendredi. J'ai dit, j'espère qu'ils ont quelque chose... Sony a quelque chose dans les plans pour une nouvelle batterie parce que ça fait aucun sens. Ouais. Je suis arrivé chez Sony, j'étais convaincu qu'il me restait de la charge dans ma batterie. Il me restait... Ça a affiché comme 7-8%. J'ai pris une ou deux photos, c'était fini. Là, à un moment donné, à 7-8%, tu es censé prendre plus qu'une ou deux photos.
Ouais,
non, finalement, lui m'a prêté, parce qu'on était dans une boutique Sony, lui m'a prêté une batterie pour que je puisse prendre mes photos.
Ah oui.
Je lui ai redonné. Je suis reparti. Écoute, mais j'ai dit d'habitude, j'en traîne toujours une, mais là, j'étais convaincu qu'elle était chargée. Je revenais de voyage, j'avais tout chargé mes batteries. Puis, j'ai aucune idée. Peut-être que je l'ai oublié allumé pendant... Pourtant, ça se met en mode veille, mais...
Ça prend pas beaucoup de temps pour la vider.
Ben, c'est ça. Même en mode veille, peut-être qu'au bout de 2 jours, 3 jours, elle finit par se vider. Là, je sais pas. Enfin.
En mode vidéo, c'est encore pire, évidemment, parce que là, ça doit sortir encore plus d'images rapidement. Ça chauffe. Mais le bon côté, comme tu sais, c'est qu'ils coûtent pas trop cher, ces batteries-là.
Oui.
Fait qu'on peut s'en avoir une deuxième, une troisième, pour pas trop cher. C'est pas la fin du monde quand même.
C'est ça.
C'est quand même, comme tu dis, quelque chose à améliorer.
Ouais.
Mais c'est quelque chose qui peut être déplaisant pour quelqu'un qui veut faire du vidéo, par exemple.
Ben oui, parce que tu...
Parce que ça peut tomber au mauvais moment où ta moseuse de pile va te lâcher.
Faut prévoir le coup, un peu comme un preneur de son doit prévoir les batteries pour les micros sans fil. Il faut qu'il pense que quand on commence une séquence, OK, je vais mettre des batteries neuves si je suis pas sûr de ma shot. La dernière chose que tu veux, c'est le réalisateur sur ton dos qui vient te dire... Qu'est-ce que tu
Pourquoi?
Fais?
Pourquoi?
Ouais, c'est ça, exactement. C'est pas son problème, puis tu veux pas que ça le soit.
Ouais.
Non, hein?
Du côté vidéo, cet appareil-là, ça se comporte super bien. Il y a toutes les fonctions, ben, c'est pas nouveau, mais il y a le zebra, il y a le peaking.
Focus peaking.
Le focus peaking. Je cherchais
Le
terme
français. La surbrillance de mise au point.
Ah, bon.
J'étais déçu, là, regarde.
C'est tellement bon, le A7S. Qu'il y a un directeur photo qui travaille pour History Channel qui s'en est servi pour faire la caméra B sur une entrevue.
Okay.
Une caméra B, c'est souvent pour faire des close-up. On place une caméra grand angle, puis une caméra close-up, puis l'entrevue peut se dérouler sans qu'on refasse les questions. Mais sa caméra A, c'est une Sony F55. Ça, c'est une caméra qui coûte 30 000 $ le boîtier seulement.
Okay. Okay?
C'est une caméra de commercial, de publicité ou de film.
OK. Okay?
Il a réussi à matcher les couleurs sans trop avoir de difficultés en post-production. On parle de quelques petits ajustements, là, quelque chose qu'on pourrait faire très facilement nous-mêmes. Puis le résultat, il est parfait. J'ai regardé l'entrevue, ça fonctionne. Les deux caméras matchent.
T'as aucune idée que t'as deux caméras différentes dans...
Non. T'as aucune idée, incroyable. Tu le vois pas. Donc, du côté vidéo, je ne l'ai pas testé tant que ça, mais... J'ai deux ou trois collègues qui l'ont acheté. C'est vraiment un hit en ce moment, cet appareil-là, pour faire certaines petites jobs.
Je m'imagine très bien si c'était plus juste une petite affaire plus petite, traîner ça pour mes spectacles.
Ah
ben oh
oui.
Mon Dieu.
Ah oui, oui, là, c'est du
oh
bonbon.
Mon Dieu que j'aimerais ça.
C'est l'équivalent de, du 10-20 Nokia avec le son, mais pour l'image. Là,
ouais.
Bon, ce que j'aime sur cet appareil-là, c'est sa sensibilité, évidemment. C'est,
oui.
En ce moment, est au top. Son mode silencieux puis son mode vidéo. Ce que j'aime pas, c'est la prise en main, ce que j'ai dit tantôt, puis le fait que le boîtier soit si carré. C'est beau, là, le petit look rétro, la petite mode rétro, puis tout.
Ouais, il est un peu angulaire, mais pas tant que ça.
Ben, un petit peu trop à mon ouais. goût, parce que quand tu le prends, je fais comme ah, c'est pas confo.
Okay.
C'est, j'aime ça, moi, quand avoir un, une.
Mais on s'habitue vite.
J'aime ça les rondeurs.
Oui, j'aime ça les rondeurs. Ouais.
Mais on
disons-le.
pour vrai, on s'habitue vite, parce que je suis passé du Canon 60D au Sony A7, puis ça a pris quelques jours. Puis
c'est parce que t'as un vendu, c'est pas pareil.
Ouais, mais.
C'est n'importe
ouais.
quoi.
C'est ça. Non, avant, mais... avant, j'étais vendu à Canon. Oui, maintenant, c'est... je suis vendu à Sony. Bientôt, ouais. je vais être vendu à Nikon ou à Olympus. Ça dépend. Si, tu sais, il faut
non,
trouver
non,
une chaussure à son
regarde,
pied.
Et, exact. Ça, je suis d'accord avec toi. Puis on en parlait souvent. C'est pas parce que toi, tu aimes un produit. Puis que même si moi, je le sais qu'il est meilleur que celui que j'ai, mais si celui que moi, j'ai me plaît plus.
Mais oui. Puis chacun, on a notre utilisation de l'appareil. Chacun,
voilà.
on a nos habitudes, nos besoins. Puis, justement, dans certains cas, moi, la pile, la batterie ne me pose pas trop de problèmes parce que c'est rare que je vais justement tourner de la vidéo longtemps ou partir sur des... Tu sais, je fais pas du studio pendant 5 heures.
Non.
Donc, moi, ça me dérange pas. Je prends mes photos. Au bout de 2 heures, 3 heures, la batterie est finie. Je change ma batterie. Au Comic-Con de Montréal, j'ai fait ça une fois. Je la change une fois dans la journée. Après, c'est fini.
Mm-hmm.
Donc, mais j'entraîne toujours une autre en plus, une troisième au cas. On apprend à... La petite porte s'ouvre super facilement. La petite coche rendue, je le sais par cœur. Je le fais à les yeux fermés, là, changer ma batterie, vraiment.
Oh ouais.
Donc, on finit par s'habituer. Puis...
Oui, ça, c'est pas un point négatif pour moi, la batterie.
C'est ça. Mais c'est pas un appareil
ben,
parfait.
C'est un point négatif, mais c'est pas la fin du monde.
Non, c'est
non,
ça.
Non, c'est ça, exactement.
Moi, je suis habitué
on
de travailler...
On apprend à contourner, à vivre avec.
Oui, pour moi, c'est pas négatif parce que je suis habitué de travailler avec des appareils que je dois changer la batterie plusieurs
ouais,
fois par jour
ça.
En vidéo. Ça arrive,
ouais.
on fait pas une journée complète.
Puis avant, tu changeais les cassettes aussi, ou
ouais.
la carte,
ouais.
ou peu importe. Fait
on change encore les cartes.
Bon,
là.
Fait que veux pas... T'as toujours quelque chose à changer au bout d'un certain temps. Fait que
ouais.
que ce soit la batterie, la carte,
ouais.
la cartouche, peu importe, ben éventuellement, t'as une manipulation à faire. C'est juste que si dans ton état d'esprit, c'est inconcevable, ça va t'agresser, ça va te vraiment...
Vas-y, pas pour ça.
C'est ça. Mais si toi, tu te dis, ben, je suis prêt à faire cette concession-là, t'auras jamais de problème.
Non, mais c'est ça, je veux dire, c'est des compromis. Je veux dire, moi, honnêtement, avoir les moyens, ça peut... pourrait être intéressant pour moi, ce genre d'appareil-là. Puis je serais prêt à vivre avec ce genre de choses-là, même si j'apprécie que ma 7D, des fois, je peux passer un mois et demi, deux mois sans
oui,
la prendre.
Absolument.
Je la sors, puis j'ai mes deux piles dedans, puis mes deux
c'est
piles,
génial.
Il reste 1500 photos.
Oui, c'est génial.
Moi, j'adore
ça. C'est vraiment génial. Mais c'est ça. Sauf que tu as un aspect un peu moins compact. Ou même,
oui.
si tu pouvais avoir la 7S pour les spectacles, mais je te dirais, admettons, tu te prends un objectif 50 mm, ben tu as vu 50 mm, c'est quand même gros, c'est long.
Ouais.
Malheureusement, il n'y a pas de format plus compact.
Non.
50 mm, c'est 50 mm du capteur. Fait que t'as comme pas le choix non plus. Tu peux pas.
Non, ça serait pas. C'est pas parfait. Mais
c'est ça. Mais pour le spectacle, moi, je considère que le RX100 que tu as, c'est vraiment comme.
Oh, je suis content.
Près de
moi,
la perfection.
Je suis bien content.
Parce que tu passes partout avec ça, puis tu as quand même un bon capteur. Puis
oh oui, exactement. C'est... Moi, honnêtement, pour ce que j'ai réussi à faire, j'ai pris des photos vraiment super bonnes. C'est sûr, plus tu es proche de la scène, plus les
oui,
photos sont bonnes.
C'est sûr.
Puis encore une fois, je reviens au spectacle qu'on a vu. Il y a des spectacles qui sont plus faciles que d'autres à prendre en photo parce que, entre autres, Skinny Poppy n'avait pas tendance à illuminer énormément
c'est vrai.
Le chanteur.
Puis il y avait beaucoup, il y avait des écrans.
Il y avait des écrans, fait qu'il était dur à faire de la photo à ces endroits-là. J'ai peu de... Les photos sont bonnes en général,
ouais.
mais le sujet en tant que tel, j'ai pas de photo qui
non,
avait de l'allure de lui.
J'en ai une seule. Puis c'est celle que j'ai mise sur ma photo de couverture de Facebook. C'est la seule photo que j'ai.
C'est ça. Tandis que d'autres, quand j'étais allé à Toronto, j'en ai pris des photos, puis j'étais très proche du chanteur, puis j'ai eu des photos superbes,
ouais.
vraiment. Je suis très, très content. Mais c'est ça, tu sais, ça dépend. Là.
Bon. Enfin. Ben,
fait que finalement, tu l'as aimé.
Ouais.
Je l'ai aimé, mais je suis pas tombé en amour.
OK.
Non, mais c'est ça. C'est un appareil qui a d'excellente qualité,
ah,
qui a des défauts,
c'est...
Ouais. Puis que ça dépend de vos besoins. Si quelqu'un qui veut justement utiliser un ISO très élevé ou tourner de la vidéo 4K, ça peut être bon.
Oui.
Mais il faut s'assurer d'avoir des batteries de rechange. Puis il faut essayer la prise en main.
Oui.
Voilà. Ben, merci François.
Ça fait plaisir.
De mon côté, deux petits tests assez rapides, histoire qu'on n'explose pas l'heure de l'épisode. J'ai testé le Nikon 1V3, donc un petit appareil hybride avec un capteur 18 mégapixels et qui vient avec un objectif 10-30 mm, un objectif motorisé, donc un peu comme le 16-50 que je t'ai prêté pour le Nexus, ben, du Nexus pour le QX1. Donc, un objectif 10-30 mm de f3.5 à 5.6. Il y a un viseur électronique amovible qui est à presque 2,4 mégapixels. Donc, un excellent viseur, mais optionnel. On n'est pas obligé de l'utiliser. Sinon, on le glisse dans le sabot sur le dessus de l'appareil. Puis, ça fonctionne très bien. Un écran 3 pouces orientable, tactile et qui affiche 1,037 millions de points. Donc, très bonne résolution. Wi-Fi intégré, ISO 160 à 12800, je dirais utilisable 1600 facilement, qui pourrait monter à 3200 là, sans trop de problèmes. Dans les points positifs de ce petit appareil, parce qu'il est quand même compact, puis l'objectif 10-30 mm est quand même pas très épais, si on veut, pas très long, donc très bon objectif, bon plus gros qu'un RX100 évidemment, pas beaucoup. Donc, ça se traîne très bien dans un sac à main, quelque chose, une poche de manteau. Et puis, dans les points positifs, bon, il y a une touche pour verrouiller soit la mesure d'exposition ou l'autofocus. Donc, c'est une bonne nouvelle parce qu'il n'y avait pas ça sur l'ancien modèle, sur le V2. Il y a des touches fonction 1 et une molette fonction 2 qui sont apparues. Donc, même chose, bonne nouvelle. Réglage de vitesse et d'ouverture comme sur un appareil plus professionnel. Là. Donc, toujours des bonnes nouvelles pour ceux qui aiment les réglages manuels. La mise au point est assez rapide. On parle tout près de celle du Sony A6000. Et dans les appareils hybrides, le Sony A6000, apparemment, c'est vraiment rapide comme autofocus au point où, pendant un certain temps, j'ai songé à remplacer mon Nexus par un A6000, mais je me suis dit, c'est pas logique. Et j'ai une résolution à tenir en 2014.
Surtout.
C'est pas pire, Steph. Il te reste presque plus de temps.
Il me reste 3 semaines et demie.
On va lâcher le 1er janvier.
Ouais, c'est ça. J'ai plus d'argent après mon voyage, mon iPad mini. J'ai acheté des nouvelles lunettes. J'ai plus d'argent. Là. Faut que je paye ma carte de crédit. on parle de 20 images secondes en rafale. Donc, quand même impressionnant. C'est quand même bien. Un autofocus hybride avec 171 points de détection de contraste et 105 de détection de phase. Donc, ça couvre presque la totalité du capteur. C'est super bon. C'est ce qui aide à faire la mise au point ultra rapide. La vidéo, c'est maintenant 1080p à 60 images secondes. Donc, très intéressant aussi. Vitesse d'obturation maximale, 1/16 millième de seconde. C'est rapide.
Oui. La A7S, c'est 1/8 millième.
Ce qui est déjà très haut.
Oui.
Je pense, moi, c'est 1/4 millième sur la A7.
Mais, ma 7D, je pense que c'est 1/8.
J'ai rarement pris une photo à cette vitesse-là, de toute façon.
Oui, bon point, ça, avec. C'est une autre histoire.
Il peut y avoir une poignée en option, avec un bouton de raccourci, fonction 3, puis une molette additionnelle, donc c'est super intéressant. Mm-hmm. Par contre, il n'y a pas de bac de mise au point manuel sur l'objectif, ce qui était un peu décevant. Ben, c'est pas dramatique, là, mais ça peut être intéressant pour des gens comme François, disons.
Oui, c'est sûr. Ouais.
Et son prix, qui est un petit peu élevé, je trouve, pour la catégorie dans laquelle il se trouve. On parle, disons, j'ai regardé un peu, j'ai magasiné sur Internet. On parle entre 829 et 899 pour le boîtier seulement.
Hi!
1249 avec l'objectif.
Ouch! Il me semble que c'est pas donné.
C'est des dollars canadiens. Là. Peut-être qu'on peut réduire de 10% en dollars américains, mais quand même, c'est pas donné. Je dirais que c'est son principal défaut, mais un prix, ça finit toujours par baisser. Donc, dans quelques mois, à la limite... Mm-hmm. Vous pourrez sûrement trouver des aubaines ou quand le V4 va sortir, ou peu importe. Mais sinon...
Le V4 va sortir?
Oui. Ah. Pas mal sûr. Rendu au V3, tu peux...
Ouais, il y a des bonnes chances.
Le V4 va sortir d'ici 10 à 12 mois. Mais non, blague à part, si c'est vous êtes plus dans un utilisateur Nikon, vous êtes, tu sais, vous pouvez être en confiance avec ce petit appareil hybride. C'est quand même.
Ben, il y a des, je pense que les petits appareils hybrides de Nikon sont quand même assez bien. Ont une bonne réputation.
Ouais, ouais. Bon, ça a bien du, ça fait bien du sens. Alors voilà, on va passer à la critique de l'imprimante Epson Workforce WF pour Workforce, évidemment, 4630. Donc, pas du tout de redondance dans le nom de l'appareil.
Mm-hmm.
C'est une imprimante multifonction, donc numériseur, photocopieur, télécopieur. Mais au départ, quand on m'a proposé de l'essayer, parce que souvent, c'est les fabricants qui nous proposent de tester des trucs, je pensais que c'était une imprimante photo et ce n'en est pas une. Par contre, j'ai jugé bon de faire le test quand même parce qu'elle a quand même beaucoup de points positifs et elle peut servir dans un bureau de photographe ou dans un à la maison, peu importe. On a sur le panneau frontal, on a un écran de 3,5 pouces tactile. L'appareil fonctionne autant par câble que par Wi-Fi, donc par câble Ethernet. On a un bon chargement de 250 feuilles à l'avant et 80 à l'arrière. Les cartouches sont grosses, donc pour une imprimante à jet d'encre, on n'a pas des petites mini cartouches là, qu'on doit remplacer au bout de 50 feuilles.
Ouais,
on a
ouais.
des plus grosses cartouches et ça, ça fait du bien. Par contre, je n'ai pas les prix des cartouches, mais c'est toujours quelque chose à surveiller quand vous achetez une imprimante à jet d'encre ou laser, de toute façon. Les
c'est
toners,
pas quelque
les
chose
cartouches,
à checker, c'est la seule chose c'est à ça. Checker.
Donc, et j'ai pas eu la chance malheureusement de la tester très longtemps parce que justement je partais en voyage et je l'ai pas eu très longtemps, mais l'impression est, la qualité d'impression est bonne.
Laquelle impression?
D'impression de texte.
Ou... Non, c'est parce que tu sais, c'est l'impression de l'imprimante ou l'impression de.
Mon impression. C'est ça. Mon impression est plutôt bonne face à l'impression.
C'est ça, exact.
C'est ça. Donc, bon, par contre, pour des images avec des ondes uniformes, on voit un peu des... À l'occasion, on voit des bandes. Donc, c'est peut-être une question de type de papier. Là. Peut-être que j'avais pas le papier idéal parce que dans les imprimantes photo, côté Epson, comme d'autres marques, si t'as pas le... tu précises pas le papier,
ça
peut causer problème. Donc, mm-hmm. peut-être qu'avec... Même si c'est pas une imprimante photo, peut-être qu'avec des images qui ont des ondes homogène, si tu veux, des zones uniformes. Là, ça crée des bandes. Mais sinon, côté numérisation, côté photocopie, très bonne qualité, ça imprime rapidement. Et ça permet de numériser directement à divers services comme Dropbox, Evernote et Google Drive.
Donc, ça, c'est bien,
super
par exemple.
Intéressant. Surtout, quelqu'un qui a un petit bureau ou qui partage des informations avec des gens.
Des factures, des reçus.
Oui, ouais. exactement. Donc,
ça, c'est très brillant.
Oui. Un bon ajout, une bonne un bon détail.
Ouais.
Et un autre point positif, par contre, comme je vous dis, j'ai pas vu le prix des cartouches, mais l'imprimante elle-même, au départ, je voyais des prix entre 200 et 300 $, ce qui est raisonnable. Puis là, je l'ai vu à 168 $ chez Bureau en gros, ce qui semblait même pas être un rabais temporaire ou quoi que ce soit. Donc, à 168 $, ça vient déjà avec des cartouches, disons, peut-être à moitié remplies. C'est quand même... une aubaine, donc on se pose pas trop la question. Si vous avez besoin d'une imprimante multifonction, ça peut être à considérer. Mm-hmm. C'est pas la plus petite, elle est quand même assez cubique, je dirais. Là. Elle est quand même assez grosse, mais ça fait bien le boulot. Alors voilà.
Super, merci.
C'était mes deux tests. Et on va
t'as
passer...
bien fait ça.
Ah, merci. Ouais, c'est stressant la première fois. On va passer maintenant aux suggestions et on commence par une suggestion d'un auditeur. Et d'ailleurs, aux deux prochains épisodes, je vous dirai, là, on va avoir beaucoup plus de suggestions et de questions, même des auditeurs, parce que ça fait quelques épisodes qu'on en reçoit, on en reçoit. Et là, ben malheureusement, le temps a fait que j'ai pas eu la chance de traiter tout ça et de mettre de l'ordre et de vous répartir le boulot. Donc... pour cette fois-ci, c'est ça. On a une suggestion d'un auditeur et il y en aura plus dans les épisodes à venir.
Qui est cet auditeur?
C'est Patrick.
Patrick.
Oui.
Bon. Est-ce que vous connaissez ça, la machine de Goldberg, les gars? Avez-vous déjà entendu parler de ça?
Le nom
non.
me disait rien. Par contre, en voyant la vidéo, en voyant le truc, j'ai dit ben oui, en tout cas.
Je vous décris ça. C'est une machine qui réalise une tâche simple d'une manière inutilement complexe. Le plus souvent à l'aide d'une réaction en chaîne. Ouais. Tu sais, la fameuse petite bille qui commence à rouler, puis là, qui accroche une carte, qui fait tourner une roue, puis bon, c'est un peu ça. Ben, les auteurs du vidéo que j'ai envie de vous montrer, ils ont amené ça ailleurs, ils ont décidé de faire ça avec un rayon lumineux.
Ouais.
Puis rediriger avec des miroirs, puis des loupes. Fait que je vous laisse regarder ça, de quelle façon qu'ils se sont servis de la lumière pour faire bouger des trucs.
C'est génial.
C'est vraiment cool. C'est juste une autre façon de faire les choses.
Ouais.
D'une autre façon de faire une machine complètement inutile.
Ouais.
C'est bravo l'originalité. C'est bien fait. C'est bien tourné. C'est un petit vidéo bien simple. Puis,
ouais. Puis Patrick le suggérait justement parce que ça faisait l'utilisation de la lumière, donc
oui.
Reliée à la photographie.
Exactement. Ah, c'est beau. Merci beaucoup, Patrick.
Ouais. De mon côté, depuis 1964, donc ça fait déjà 50 ans, le Musée d'histoire nationale de Londres organise un concours annuel sur la photographie de nature, disons de wildlife, là, si on veut, en bon français. Mm-hmm. Et cette année, le photographe de l'année est un jeune garçon de 9 ans.
Ah, oh, je l'ai vu. Oui, ok, je sais que tu parles.
Ouais. Et ce jeune garçon a pris des photos, des clichés absolument incroyables. Et je vais mettre le lien, évidemment, dans les notes parce que ça fait pas de sens de
ça
penser que c'est un bambin de 9 ans. Mais je dis un bambin, mais un enfant de 9 ans. Ma fille, depuis l'âge de 3, même pas 3 ans, a commencé à prendre des photos à l'occasion de nous, à la plage ou peu importe, parce que c'est difficile pour un couple de se prendre en photo avec un appareil. Maintenant, là, par contre, à Prague, j'ai vu beaucoup de gens, surtout les Asiatiques, qui ont le fameux bâton, l'extension pour le smartphone au bout pour prendre des selfies.
Ouais.
Mais bon, à l'époque, quand ma fille avait 3 ans, il n'y avait pas d'iPhone et compagnie. Mais elle prend des photos depuis quand même assez longtemps et tout ça, mais jamais à un niveau comme ce garçon de 9 ans. Là. C'est
assez bien équipé,
incroyable.
D'ailleurs.
Oui. C'est quasiment dur à croire.
Ben,
je regarde les photos.
Il y a une maîtrise assez incroyable de l'appareil. Puis, mais
c'est possible. Il y a des jeunes prodiges dans
Moi, j'y crois. Mais c'est juste... Tu sais, il y a un argument que je sors souvent, je l'ai déjà dit. Tu sais, on nous dit que c'est le photographe qui fait la photo. Mais l'équipement aide en tabarnouche, des fois, par exemple.
Absolument. Pour faire les flous d'arrière-plan. Tu peux pas faire ça avec n'importe quoi.
Il prend une photo d'un scorpion, il est gigantesque. Excuse-moi, j'ai aucun objectif qui me permet de faire ça. Là. Ça prend. C'est super
mais
réussi.
Il y a un avantage, ce jeune garçon. Il est déjà plus bas, plus près de son sujet.
Étant
plus petit.
Tu ris, mais ça, peut-être que oui, ça l'aide pour de vrai aussi, parce que il y a peut-être une meilleure façon de se garder lui-même, tu sais, sa balance, ses affaires, peut-être que ça l'aide, je sais pas, mais ça me surprendrait pas tant que ça.
Ouais, ou peut-être que justement, de façon plus naturelle et spontanée, il va s'accroupir, s'agenouiller pour prendre ses photos, alors que nous, on va rester un peu plus haut, on va peut-être moins penser à s'approcher du sujet, je sais pas.
Ouais, parce qu'il a l'air un gros fan de ce qui est macro aussi et tout ça, fait que il y en a beaucoup, fait que c'est sûr que ça doit pas nuire.
Alors à voir ces petits clichés. Et toi, Christian?
Moi, tu sais, je vous ai déjà parlé dans le passé, j'ai plusieurs amours, j'ai la photographie, j'ai la musique, mais il y en a un autre aussi de temps en temps, tu sais, c'est agréable, l'alcool aussi, c'est pas désagréable. J'ai trouvé, quand j'ai vu cette nouvelle, j'ai trouvé ça tellement drôle. C'est un photographe qui prend des photos de whisky.
OK.
Là, jusqu'à
date. De bouteille de whisky?
Non, écoutez, non. C'est ça. C'est le bout intéressant, c'est là. Il s'est rendu compte, probablement après quelques verres, le fond de son verre de whisky, quand il avait séché un petit peu, avait des motifs intéressants, des couleurs, des textures intéressantes. Alors, il a commencé à prendre des photos de whisky
de
séché.
De ses fonds de verre.
Mais allez voir ça. C'est vraiment beau, sérieusement. Puis, dépendant du type de whisky, ben ça n'a pas toutes les mêmes consistances, ça n'a pas tous les mêmes éléments, l'eau, etc. Fait que les résultats ont l'air... presque extraterrestre.
Mm-hmm.
C'est très spécial ce qu'il a réussi à faire avec ça. Tu sais, quand on dit des fois, ça prend un œil particulier pour voir quelque chose de simple, sous un angle complètement différent, mais c'en est quand même un bon exemple. C'est sûr que le clin d'œil, au début, tu dis, ah, il prend des photos d'alcool, mais c'est quand tu vois les photos, tu fais comme, oh, c'est assez particulier de voir la texture, de voir les grains, les choses. C'est quelque chose.
Ouais, c'est original.
C'est très original.
Super, ben merci beaucoup. Et on va conclure l'épisode là-dessus. Au prochain épisode, entre autres choses, je vais vous présenter le test du Fujifilm X100T.
Chance.
T comme dans third, troisième version. Et bon, il y aura évidemment d'autres tests.
Mais il y a aussi le fait que T vient après S.
Ouais, mais ça, c'est un hasard.
Ah, OK.
S pour second.
En anglais, oui. En tout cas, continue.
Second, third. Et il va y avoir le X100F après fourth. À moins qu'il passe au fifth, comme j'avais dit il y a quelques épisodes, parce qu'ils sont superstitieux sur le chiffre 4 au Japon. Donc peut-être que ça va rester F quand même pour fifth. Nous verrons probablement l'année prochaine, parce que ça semble être le rythme auquel les X100 changent. Donc voilà. Pour nous rejoindre, vous pouvez toujours aller sur les réseaux sociaux. Sur Twitter, c'est O Numérique. Facebook, Google+, Objectif Numérique. Et pour nous envoyer vos questions, commentaires et suggestions, podcast@objectifnumérique.com. Sur ce, merci beaucoup, messieurs. Merci, Christian.
Merci, Stéphane.
Merci, François.
Merci.
J'aime ça vous mélanger. J'en regarde un, puis je nomme l'autre.
Oui, il est fin comme ça.
Et merci beaucoup, chers auditeurs. Et d'ici le prochain épisode... À vos déclencheurs.